grève générale le 19 mars. Alors pourquoi pas le 1er mai ou le 14 juillet ou peut-être à Noël l'année prochaine. Allez, au revoir, bon courage à tous.
Sarkozy et Kouchner sont aujourd'hui à Bagdad. Mais ils continuent vraiment d'essayer de nous entuber. Sarkozy, c'est à Fort-de-France et à Pointe-à-Pitre qu'il devrait être aujourd'hui. Souvent, c'est vrai que pour lui, Bagdad, c'est une étape moins risquée que la Guadeloupe ou la Martinique.
Petit calcul. Le gouvernement offre 6 milliards d'euros pour relancer Renault et Peugeot. 6 milliards sur 5 ans. Si on considère qu'un salaire moyen coûte 30 000 euros par an, c'est-à-dire 150 000 euros sur 5 ans, 6 milliards représentent le salaire de 120 000 salariés sur 5 ans, c'est-à-dire plus des deux tiers de l'ensemble des salariés de Renault et Peugeot réunis. C'est-à-dire qu'en échange de maigres obligations, comme ne pas débaucher, ce qui est la moindre des choses, le grand plan de relance pour automobile est de payer les salaires des employés, qui entre nous ferait mieux de rester chez eux plutôt qu'aller bosser puisqu'on leur garantit leur salaire. C'est qu'en réalité, et c'est dans le plan, ces 6 milliards permettront juste de modérer les dividendes des actionnaires. Minable président. Renault a fait 1 milliard de bénéfices en 2008, on en offre donc 6 pour modérer les dividendes des actionnaires. Et dans le même temps, Jean-François Copé fait la promo du microcrédit pour les Français. Ce fameux microcrédit créé pour les plus pauvres des pays sous-développés. Minable gouvernement. Elle est là, sa réponse à la crise. Pérenniser les dividendes et les gros salaires de Renault, alimenter les banques qui ne prêtent plus, et donc développer le microcrédit. UMP, union de minables politiciens. Mais après tout, ils ont raison. 34% des Français y croient encore. C'était un message de Pascal de Lyon.
Bonjour à tous, AMG de la Basse-Ardèche. C'est mercredi 11 février au Café Repère de Saint-Montant. C'est au sud de Montélimar. Au sujet, nous avons l'Europe. Alors l'Europe et ses questions, hein. Pourquoi c'est toujours aussi peu excitant, si passionnant de parler d'Europe? De quelle Europe parle-t-on? N'y a-t-il qu'une seule Europe, celle de l'économie et celle des lobbies? La parole est à vous ce mercredi soir à partir de 19h. Hein. Je répète, c'est au Café Repère de Saint-Montant, le petit bistrot à l'entrée du village. Le téléphone 04 75 00 15 79. J'espère que vous serez nombreux. À mercredi. Au revoir.
Salut Daniel, c'est un chercheur en colère, très en colère, qui laisse ce message aux AMG de la Bastille-J'y-Suis. Nicolas Sarkozy, dans son discours du 22 janvier, a annoncé la fin du CNRS en tant qu'organisme indépendant de recherche, dans un discours très violent et très méprisant pour l'ensemble des chercheurs français. Le CNRS est un organisme de recherche national et pluridisciplinaire, créé en 1939, avec l'aide notamment d'Irène Joliot-Curie et de Jean Perrin, prix Nobel de physique. Classé actuellement au 4e rang mondial, il sous-tend la recherche fondamentale en France et lui a valu de nombreux prix Nobel et médailles Field. Nicolas Sarkozy nous promet une recherche asservie au pouvoir politique, des chercheurs précarisés et la disparition d'un des plus grands organismes de recherche et développement au monde. Ce message concerne tous les Français. Diffuse-le, s'il te plaît, diffuse-le. Salut Daniel.
Bonjour, c'est Philippe d'Annecy. Voilà, j'ai écouté l'émission là, d'aujourd'hui, là, lundi, sur les lobbies pro-israéliens. Puis à un moment donné, j'ai écouté son responsable américain qui disait qu'il serait stupide de penser que le monde irait mieux s'il n'y avait plus d'Israël, d'État d'Israël. Alors effectivement, il a raison. Le monde ne dirait pas mieux s'il n'y avait plus d'État d'Israël. Par contre, je pense que le monde irait beaucoup, beaucoup mieux s'il y avait aussi un État palestinien. Et puis, ben, à l'instar des partis de droite et d'ultra-droite israéliennes, ben, ces lobbyistes américains peuvent se vanter de fabriquer du kamikaze islamiste, de l'intégriste acharné dans la bande de Gaza et la Cisjordanie, aussi sûr que ce que le font les ces partis d'ultra-droite israéliens qui ont littéralement fabriqué le Hamas. Voilà. C'est une manière de faire du lobbying, je pense, effectivement. Allez, au revoir et à bientôt.
Eh bien, merci. Merci pour vos messages, chers AMG auditeurs, auditrices, modestes et géniaux et géniales. On continue aujourd'hui autour de ce thème, le lobby pro-israélien, voyage autour d'un tabou. On aurait pu dire voyage autour d'un livre ou voyage dans un livre. Le lobby pro-israélien, c'est le titre d'un livre sorti il y a maintenant 2 ans aux États-Unis et traduit dans une vingtaine de langues, le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine. C'est un sujet tabou aux États-Unis, qui l'était jusqu'à la parution de ce livre, qui a eu des conséquences énormes. D'abord, qui lui a valu beaucoup de réprobation, d'insultes, des critiques plus ou moins fondées et passionnées, ce qui était un petit peu dans le répondeur de la passe « J'y suis » entre hier et aujourd'hui, mais aussi et finalement, eh bien, des réflexions un petit peu plus calmes, un petit peu plus circonstancié, et ce livre au final aura contribué grandement à désamorcer et à regarder les choses d'une façon un peu plus sereine, à débattre et surtout eh bien à essayer de lutter contre ce terrorisme intellectuel qui règne aux États-Unis dès qu'il s'agit de questions de la question du Proche-Orient, de la question israélienne. Un peu et même tout à fait comme chez nous en France. C'est la raison pour laquelle nous faisons ce voyage ensemble. Nous continuons aujourd'hui tout ça sur fond, évidemment, d'élections en Israël, même s'il n'y a pas un rapport direct entre ce lobby et les élections, mais on verra s'il y a des relations indirectes entre ce qui se passe sur le terrain et puis ce lobby qui, encore une fois, je le précise tout de suite, n'est pas un lobby juif, il n'y a pas de lobby juif, il y a par contre un lobby pro-israélien qui existe aux États-Unis comme des centaines d'autres lobbies. Celui-là, c'est un des lobbies les plus puissants, mais ça fait partie de la vie démocratique, en tous les cas de la vie politique aux États-Unis, que la pression qu'exercent ces lobbies sur la vie politique aux États-Unis et notamment évidemment à Washington DC où ces lobbies sont basés. Voilà notre sujet du jour. Aujourd'hui, donc ce mardi, auparavant, alors je devais vous dire ceci, c'est que deux petites choses quand même avant d'attaquer. Mercredi, c'est-à-dire demain, voilà, je cherchais dans mes petits papiers, mercredi demain 11 février, je serai au cinéma Le Prado à Marseille. Une séance Chomsky et compagnie à 20h, suivie d'un débat. Et puis, à cet auditeur qui dit que je vais toujours dans le sud et jamais dans le nord pour animer des débats, eh ben, je lui annonce que je serai vendredi à Arras, à l'issue de la projection de Chomsky et compagnie qui aura lieu à 18h. Au Ciné Movida. Voilà, le lobby pro-israélien. Et auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour Daniel. Salut les AMG. Pour vous annoncer que le prochain repère du 14e se tiendra au Magique, 42 rue de Gergovie, le dimanche 15 février à 20h, métro Plaisance. Pas de thème imposé, mais chacun pourra, selon l'actualité, développer un sujet. Voilà, c'est Philippe. À bientôt. Salut.
Qu'est-ce que je suis fier. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis fier. Ah, on l'a dans George Bush en culotte petit bateau. Hein. Il est magnifique, Nicolas Ier. Allez hop, 7 milliards pour les constructeurs automobiles. Juste, oh, on promet. On promet qu'on virera personne, il n'y a aucun accord écrit, l'État ne prend aucune participation. À l'heure où les États-Unis et l'Angleterre découvrent le socialisme, mais au moins, ils prennent des participations. Donc, quand ça gagnera de l'argent, et ben, peut-être qu'ils rentreront dans leur sous. Ben nous, on s'en fout, on donne. Qu'est-ce que je suis fier, mon Dieu. Ah, je vous dis, George Bush en culotte petit bateau, il est magnifique. Enfin, en tout cas, je constate que Renault vient de monter de 7% et PSA de 4%, donc tout le monde n'est pas malheureux. Eh ben, c'est chouette. Vive la vie et vive Nicolas. Youpi.
Bonjour, je m'appelle Julie Poupenet, j'habite à Nantes. Bah, ici, à Nantes, à côté de chez moi, 2 km sur les plaines inondables de Doulon. La mairie, elle a la gentillesse de tolérer des Roumains en exil. Alors, il y a des hommes, des femmes, des enfants, des vieilles personnes qui vivent dans des cabanes en tôle. Et là, ce soir, on annonce plus de 120 km/h de vent. Alors, bah voilà, je voulais signaler que j'habite en France. Je suis française même. Un pays où je trouve que les droits de l'homme sont bafoués tous les jours. Un pays où les députés s'auto-amnistient, représentés par un président vendeur d'armes qui met les enfants en prison. Voilà, j'habite un pays aux mains du cynisme. Apparemment, il ne connaît pas la honte, lui. Moi, si. Je voulais la faire partager.
Salut Daniel et salut à tes fidèles auditeurs. Voilà, alors je voudrais te signaler que j'organise ce soir, mardi 10 février, avec l'Union Pacifiste, une soirée en hommage à un grand avocat des droits de l'homme et qui s'appelle Jean-Jacques De Félis. Je répète son nom, il faut qu'on le retienne, Jean-Jacques De Félis. Il est décédé en juillet 2008 et nous voulons honorer sa mémoire avec un film que j'ai réalisé qui s'appelle Jean-Jacques De Félis, avocat du peuple kanak. Il y aura ensuite, après le film, des prises de parole avec ses parents et ses amis, notamment Stéphane Hessel, Albert Jacquard, Michel Tubiana, François Roux, Irène Terrel, bon j'en oublie, il y en a beaucoup d'autres. Et la soirée a donc lieu au cinéma La Clé, 21 rue de La Clé, Paris 5e, métro Sancier-d'Aubenton, à partir de 19h30. À bientôt, merci.
Cher ex s'en va en grève, Mironton, Mironton, Mirontaine, cher ex s'en va en grève, ne sait qu'en grèvera, ne sait qu'en grèvera, il grèvera à Pâques, Mironton, Mironton, Mirontaine, il grèvera à Pâques ou à la Trinité. Thibaut s'en va en grève, Mironton, Mironton, Mirontaine, Thibaut s'en va en grève, ne sait qu'en grèvera. Ne sait qu'en grèvera, il grèvera à Pâques, Mironton, Mironton, Mirontaine, il grèvera à Pâques ou à la Trinité. Voilà, Dominique de l'Oise. Salut.
It is wonderful being here with all of you among
sénatrice Hillary Clinton, 4 juin 2008.
So many friends.
C'est merveilleux d'être ici avec vous parmi tant d'amis.
The largest APAC gathering in history, and I feel like I am among family. And thank you for the warm welcome.
Le plus grand rassemblement de l'APAC dans l'histoire, et je me sens comme à la maison. Et merci pour l'accueil chaleureux.
APAC is America's pro-Israel lobby.
L'APAC est le lobby pro-israélien des États-Unis.
It's an organization of hundreds of thousands of Americans.
Ça représente des centaines de milliers d'Américains.
Of all faiths and backgrounds.
De toutes les fois et de tous les parcours individuels.
Who care about a strong U.S.-Israel relationship.
Qui sont soucieux d'avoir des liens forts entre Israël et les États-Unis.
Just as America is deeply fortunate to have a close friend in Israel.
De la même façon que les États-Unis ont la chance d'avoir un aussi bon ami qu'Israël.
Sénateur John McCain, 2 juin 2008.
Israel is privileged to have a supporter in APAC.
Israël a le privilège d'avoir le soutien inconditionnel d'APAC.
Je note quand même que vous avez 100 000 membres, que vous avez 70 associations qui sont affiliées à l'APAC, ce qui est quand même imposant, important, et que vous revendiquez 4 millions d'électeurs dans les États clés.
Well, the Jewish community in America is just 2% of the population.
La population juive aux États-Unis, c'est que 2% des électeurs.
The percentage of Americans who say that America's relationship with Israel is important to them is 75-80%.
Par contre, le pourcentage d'États-Unis d'Américains qui disent que la relation avec Israël est très particulière, c'est 75-80%.
And I know that when I visit APAC,
sénateur Barack Obama,
et je sais que quand je viens à APAC,
I'm among friends.
Je suis chez des amis.
4 juin 2008.
Good friends.
De bons amis.
Est-ce qu'il serait possible aux États-Unis qu'un candidat soit élu s'il manifestait son soutien à la cause palestinienne dans n'importe quel poste aux États-Unis?
History says no.
L'histoire dit que non.
One or two have and they lost.
Il y en a un ou deux qui ont essayé et ils ont tous perdu.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil, le lobby pro-israélien, voyage autour d'un tabou.
Flight number 2, arriving from New York.
So much of the work that-
that we do in support of Israel happens during these few days of the policy conference.
Bauer told me there's over 500 meetings scheduled with members of the Senate and the House. I'm sure you're going to pass this message on to them. A free, prosperous, and secure Israel is in this nation's national interest.
We love Israel. We love the American-Israel relationship. And as U.S. citizens, we're here to press our case.
And I like being one of the people to speak directly to the congressmen or the senators.
Every person who walks on the Hill to lobby their members of Congress makes a big difference.
$34,785, c'est le nombre d'agences de lobbying répertoriées à Washington DC qui a plus que doublé depuis 2000, passant de 16,342 à 34,785 en 2005. 34,785 agences de lobbying qui, chaque année, dépensent plus de $2,1 milliard. C'est l'argent dépensé par les entreprises et les groupes de pression pour défendre leur cause au Capitole et auprès de l'administration. Ainsi, le mot « lobbying », qui chez nous est péjoratif, a une connotation négative, ne l'est pas du tout aux États-Unis où le lobbying, les lobbies font partie de la vie politique et de la démocratie américaine. Je l'indiquais hier, le nouveau président des États-Unis, Barack Obama, a fait savoir qu'il ne serait pas le jouet de ces lobbies et que l'agenda des États-Unis ne serait pas fixé par les lobbies. Nous allons nous intéresser, depuis hier nous nous intéressons spécialement à l'un de ces lobbies, le lobby pro-israélien. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des plus puissants et qu'il a un rôle, quel rôle exactement ? Important, très important ou moins important selon les observateurs, selon les analyses, à la fois sur la politique étrangère des États-Unis et sur Israël et donc sur le Proche-Orient et sur le conflit du Proche-Orient. Entre 1972 et 2006, Washington a mis son veto à 42 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, des résolutions qui critiquaient la politique israélienne. Donc, là, il y a l'influence, évidemment, de ce lobby. Chaque année, Israël continue de recevoir 3 à 4 milliards de dollars d'aide américaine, c'est-à-dire un sixième de l'aide étrangère des États-Unis. Et beaucoup d'autres soutiens, diplomatiques donc, économiques, militaires, technologiques, etc. Pourquoi ? Eh bien, deux chercheurs éminents, John Mersheimer et Stephen Walt, se sont penchés sur cette question et y ont répondu dans cet ouvrage « Lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine », un livre qui est sorti en France il y a 2 ans, en 2007, et dont, avec Guy, nous avons essayé de voir les effets, car ce livre a eu énormément d'effets, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, puisqu'il a été traduit dans une vingtaine de langues. Les deux auteurs ne sont pas du tout d'épouvantables gauchistes pro-palestiniens et allumés d'une façon ou d'une autre, d'épouvantables antisionistes. Bien au contraire, ils se présentent comme des conservateurs pro-israéliens et qui essaient de faire comprendre dans cet ouvrage, c'est leur thèse, que ce lobby, le lobby pro-israélien aux États-Unis, est nuisible à Israël autant qu'aux États-Unis. John Mersheimer est professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago. Stephen Walt est professeur de relations internationales à la Kennedy School of Government d'Harvard. Et ensemble, ils ont d'abord rédigé un texte assez court qui a été refusé par les grandes publications prestigieuses parce que, sans donner de raison, mais on les comprend tout de suite, la menace, le chantage à l'antisémitisme est très actif aussi aux États-Unis comme chez nous. Mais c'est finalement la London Review of Books qui a publié leur texte qui a eu des conséquences immédiates. Ce texte a eu ensuite un développement à travers ce livre qui, je le disais tout à l'heure, a été traduit dans une vingtaine de langues et nous allons essayer de voir aujourd'hui ses conséquences. Les temps changent, ce livre a contribué au changement. On va essayer de comprendre aujourd'hui comment fonctionne ce lobby. Encore une fois, ça n'est pas un lobby juif, c'est un lobby. Il n'y a aucun complot, rien qui relève d'une quelconque conspiration. Les lobbies aux États-Unis sont tous fixés à Washington, D.C. et opèrent en plein jour, en toute lumière et même en toute légalité. C'est une façon que la démocratie américaine de fonctionner, et donc ce lobby fonctionne de la même façon, mais on va voir quel est son rôle sur un sujet évidemment très délicat. C'est là-bas si j'y suis jusqu'à 16h sur Inter. Le lobby pro-israélien voyage autour d'un tabou.
Flow like the blood of Abraham through the Jews and the Arabs, broken apart like a woman's heart abused in a marriage, the brink of holy war bottled up like a miscarriage. Embedded correspondence don't tell the source of the tension, and they refuse to even mention European intervention or the massacres in Jenin. The innocent screams, US manufactured missiles and M16s, weapon contracts and corrupted American dreams. Media censorship blocking out the video screens. A continent of oil kingdoms bought for a bargain. Democracy is just a word when the people are starving. The average citizen made to be blind to the reason. A desert full of genocide where the bodies are freezing, and the world doesn't believe that you're fighting for freedom, cause you fucked the Middle East and gave birth to a demon. It's open season with the CIA bugging my crib, trapped in a ghetto region like a Palestinian kid, where nobody gives a fuck whether you die or you live. I'm trying to give the truth and I know the price is my life, but when I'm gone they'll sing a song about immortal technique. Who beheaded the president and the princes and sheiks? You don't give a fuck about us. I can see through your facade like a fallen angel standing in the presence of God. Bitch niggas scared of the truth when it looks at you hard. It's like MK Ultra controlling your brain, suggestive thinking causing your perspective to change. They want to rearrange the whole point of view in a ghetto. The fourth branch of the government want us to settle. A bandana full of glittering generality, fighting for freedom and fighting terror. But what's reality? Martial law is coming soon to the hood to kill you while you hanging your flag out your project window. We act like we sharing the spoils of war that they do. We die in wars. We don't get the contracts to make money off them afterwards. We don't get weapons contracts, nigga. We don't get cheap labor for our companies, nigga. We are cheap labor, nigga. Turn off the news and read, nigga. Read. Read.
Alors, avant d'avancer, je voudrais que vous nous racontiez un peu l'histoire de ce lobby. Il n'est pas né d'hier.
No, that supporters of Zionism had been active even before Israel was created.
Stephen
Walt. In the
United
States and in other countries to try and gain support for the creation of a Jewish state.
Des militants sionistes qui ont été actifs aux États-Unis et en dehors des États-Unis pour essayer de gagner des soutiens à la création d'un État juif.
After Israel was founded, a number of groups were organized in the United States to try and gain greater American support for the new state of Israel.
Et une fois qu'Israël a été créé, l'État d'Israël a été créé, il y a des groupes qui sont créés aux États-Unis pour essayer justement d'acquérir des soutiens à la cause de cet État israélien.
We argue in our book that these groups were fairly small, tended not to operate very openly. They weren't secretive, that they were working quietly behind the scenes, as it were.
Oui, et nous, ce qu'on montre dans notre livre, c'est que ces groupes qui étaient assez petits, qui n'étaient pas très nombreux, même s'ils ne se cachaient pas, bon, ils étaient un peu dans l'arrière-scène. Ils ne travaillaient pas ouvertement.
And it's important to realize that the special relationship that exists now between the United States and Israel didn't exist in the 1950s and most of the 1960s.
Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette relation spéciale qu'il y a entre les États-Unis et Israël n'existait pas dans les années 50 ni dans les années 60.
The key groups in the lobby become more powerful and more influential and larger in number, beginning in the 1970s and into the 1980s.
C'est dans les années 70-80 que les principaux groupes les plus importants dans ce lobby ont gagné en importance et en poids politique.
Right. And this is also the same period where the United States and Israel start moving closer and closer together.
Et c'est la même période que les États-Unis et Israël se sont rapprochés de plus en plus.
Right. Also, the major organizations like AIPAC and the Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations also become more conservative. They move to the right.
Où l'AIPAC, où ses principaux groupes de soutien, c'est-à-dire l'AIPAC et la Conférence du Président d'Organisation Juive aux États-Unis, ont viré de plus en plus à droite politiquement.
Mais une question tout de suite. Le lobby représente quoi? Il représente qui aux États-Unis? Ce que vous dites dans votre livre, c'est que le lobby pro-israélien ne représente pas l'opinion juive moyenne des États-Unis. Par exemple, vous dites que la majeure partie des juifs américains sont favorables à faire des concessions aux Palestiniens pour obtenir la paix.
There is much wider range of opinion among American Jews than you would think if you just looked at what AIPAC said.
Il y a une très grande variété d'opinions au sein de la communauté juive américaine, beaucoup plus large en tout cas que l'image qu'on renvoie à l'AIPAC.
Il faudrait qu'on ait une idée un peu de ce que représente ce soutien inconditionnel des États-Unis à Israël. Vous dites et vous rappelez dans votre livre que chaque année, les États-Unis versent 3 milliards de dollars de soutien à Israël sans que Israël soit tenu de rendre des comptes, à la différence d'autres soutiens que les États-Unis peuvent apporter dans le monde à certains pays. Et toute une suite d'aides qui sont autant d'aides inconditionnelles.
It's between 3 and 4, actually.
En fait, c'est plus entre 3 et 4 milliards de dollars.
Oui, mais j'ai des vieux chiffres. La vie a augmenté.
It's 3 to 4 billion dollars a year. We also provide constant diplomatic support.
Il y a aussi le soutien diplomatique constant.
So we will veto UN resolutions that are critical of Israel.
C'est-à-dire que les États-Unis apposeront leur veto à toute sanction au sein du Conseil de sécurité de l'ONU qui sont critiques, qui sont contraires à l'intérêt d'Israël.
And of course, whenever there is a conflict, such as in Lebanon in 2006 or in Gaza this past month, the United States supports what Israel is doing and doesn't criticize it at all. We back them.
Et quand il y a un conflit, comme c'était le cas par exemple sur l'offensive, sur la deuxième guerre du Liban en 2006 ou le mois dernier contre Gaza, les États-Unis soutiennent inconditionnellement Israël. On ne remet pas en cause les opérations militaires.
On ne remet pas en cause des opérations militaires, mais encore une fois, il faut bien souligner que ce lobby majoritaire le plus puissant, c'est-à-dire en l'occurrence l'AIPAC, ne représente pas la majorité de l'opinion des juifs américains, qui sont plutôt démocrates et plutôt à gauche de l'aile démocrate. Et là, il y a une analogie à faire avec ce qui se passe en France, où le CRIF donne l'impression de parler au nom de tous les Français juifs, alors que c'est loin d'être la vérité ni la réalité. On peut s'en rendre compte quand on entend les déclarations de l'UJFP, par exemple, très très en colère contre les déclarations du CRIF concernant la récente offensive sur Gaza. Alors revenons à notre lobby pro-israélien états-unien. Comment ça fonctionne? Comment le lobby exerce-t-il, encore une fois, je le rappelle en pleine lumière, ces pressions? Comment s'exercent ces pressions? Question posée à Mersheimer, l'autre auteur, disons deux, du livre Le lobby pro-israélien par téléphone.
The best example of the influence of the Israel lobby on U.S. foreign policy toward the Middle East has to do with the settlements and Israel's colonization of the occupied territories.
Le meilleur exemple qu'il y ait de la pression et de l'influence qu'a le lobby pro-israélien sur la politique étrangère américaine, et en particulier au Proche-Orient, c'est les colonies et la politique de construction de colonies en Cisjordanie.
De quelle façon?
Every American president since Lyndon Johnson in 1967.
Chaque président américain depuis Lyndon Johnson en 1967
has opposed the building of settlements in the occupied territories.
Tous se sont opposés à la construction de colonies dans les territoires occupés.
Yet no president has been able to put meaningful pressure on Israel to stop building settlements.
Et pourtant, aucun de ces présidents n'a pu avoir une pression conséquente qui empêche Israël de construire davantage de colonies.
And this, despite the fact that it is not in the American national interest to build those settlements.
Et ça, malgré le fait que ça ne répond pas à l'intérêt national américain, ces colonies nuisent à l'intérêt américain.
The reason that no president has been able to put pressure on Israel to stop building settlements and to allow the Palestinians to have a viable state is the Israel lobby.
Et la seule raison, la raison unique pour laquelle aucune pression n'a été rendue possible de la part des États-Unis sur Israël pour mettre fin à la colonisation et que les Palestiniens puissent avoir un pays viable repose dans le lobby.
Every time a president has tried to put pressure on Israel to stop building settlements, the lobby has then moved in and put great pressure on the president, and the president has invariably stopped pressuring Israel.
Chaque fois qu'un président a voulu faire pression contre la construction des colonies, immédiatement le lobby s'est mis en branle et a fait pression sur le gouvernement pour qu'il renonce à ses prises de position.
Mais là aussi, de quelle façon, comment est-ce que ce lobby peut faire pression sur le président? Quel est le processus de pression?
Well, in the American political process, lobbies or interest groups wield great power.
Dans le système politique américain, dans la manière dont il fonctionne, les groupes d'intérêt et les lobbies ont une grande marge de manœuvre.
They contribute money to political campaigns.
Il y a des contributions financières aux campagnes politiques.
They influence what is written in the media.
Ils influencent ce qui est raconté dans les médias.
And they can motivate voters to vote against the president who is perceived to be anti-Israel.
Et ils peuvent mobiliser des électeurs à voter contre un président qui aurait des positions jugées anti-israéliennes.
So in the case of the Israel lobby, it not only has enormous influence on presidents, it also has enormous influence on senators and congressmen.
Et donc le lobby pro-israélien aux États-Unis n'a pas seulement beaucoup d'influence sur le président, mais il en a aussi beaucoup sur les congressistes et les sénateurs.
And this explains why Israel gets consistent backing, in fact, overwhelming backing in Congress.
Et c'est pourquoi Israël a toujours un soutien presque unilatéral, en tout cas majoritaire, au Congrès.
And why no president, including Barack Obama, would dare challenge Israel in an open and meaningful way.
Et c'est pourquoi aucun président, y compris Barack Obama, n'osera s'attaquer de face à Israël sur ces questions-là.
The traffic lights weren't working, snarling.
Voilà l'analyse de John Mersheimer, l'un des deux auteurs du lobby pro-israélien. Alors un exemple concret de ces pressions, c'est ce qui est arrivé à un certain Earl Hilliard dans un documentaire canadien qui circule sur le net. Earl Hilliard témoigne de ce qui lui est arrivé. Il a été membre du Congrès entre 1991 et 2002. Il avait entrepris des négociations commerciales avec la Libye avant que Kadhafi devienne l'ami du monde entier, comme vous savez. Et eh bien, l'EPAC a exercé ses pressions. Comment? Eh bien, en finançant son adversaire. Eh oui, aux élections suivantes. L'adversaire, ça s'est passé en Alabama, a reçu 300 000 dollars de soutien en contribution électorale. Voilà. Alors évidemment, tout ça c'est légal. Tout ça c'est parfaitement légal. Et avec assorti de messages publicitaires affirmant que Earl Hilliard était appuyé. Alors, appuyait Ben Laden. Voilà. Diffamation tout à fait autorisée aussi aux États-Unis, liberté d'expression oblige, qu'il était appuyé par Ben Laden, Saddam et Kadhafi. Moralité, eh bien, Earl Hilliard
a perdu les élections. Voilà un exemple de, de la façon dont s'exerce la pression de ce lobby. Témoignage.
Earl Hilliard a été membre du Congrès des États-Unis. Dans les années 90, il souhaitait établir des liens avec la Libye en Afrique. À cette époque, les États-Unis n'entretenaient aucun lien diplomatique avec ce pays considéré alors comme faisant partie de l'axe du mal. Hilliard a visité le pays plusieurs fois et maintenait des relations suivies avec Muammar Kadhafi.
Voici ce qu'AIPAC a fait. Certains membres du Congrès introduisaient des résolutions condamnant la Libye en les associant avec celles condamnant la Syrie, l'Iran et l'Irak. Ils ont continué à proposer ces résolutions accompagnées de toutes sortes de sanctions et représailles contre ces pays. Évidemment, j'ai voté contre ces résolutions et d'autres ont commencé à faire de même. J'ai su plus tard ce qui avait vraiment mis AIPAC en colère.
Au cours de la campagne électorale, son adversaire politique dans le district d'Alabama a reçu plus de $300,000 de New York en contribution électorale. Un montant sans précédent.
Ils ont inondé les ondes radio et télévision de messages publicitaires. Il faut se rappeler quelles étaient les préoccupations des Américains à cette époque. Nous venions de vivre les événements du 11 septembre et la plupart des Américains ne pouvaient faire la différence entre Saddam Hussein et Muammar Kadhafi ou Kadhafi et Ben Laden. Pour eux, ils étaient tous pareils. Plusieurs messages publicitaires m'ont associé à eux en disant que je les appuyais. On voyait des images des avions percutant le World Trade Center. Vous comprendrez que ma cote a commencé à baisser rapidement dans les sondages. Je dois admettre que tout avait été bien planifié et exécuté. Je me suis dit en voyant tout ça, mon Dieu, leur truc est vraiment au point. J'ai perdu l'élection.
I lost the election.
Since the founding 55 years ago,
Ariel Sharon.
Depuis sa fondation il y a 55 ans,
AIPAC has proven a close friend to Israel.
AIPAC a toujours été un ami proche d'Israël.
Your activity,
vos activités,
and the cause that you actively promote issues,
et la cause que vous défendez activement,
that improve the bilateral relations between the United States and us,
renforce les relations entre les États-Unis et nous.
AIPAC's continued support,
le soutien continu d'AIPAC,
is more important now than ever before,
est plus important aujourd'hui que jamais auparavant.
Ariel Sharon remercie et honore l'AIPAC dans ce document. Alors comment fonctionne, encore une fois, ce lobby pro-israélien, basé, je le rappelle, à Washington, D.C., le point de vue du porte-parole de l'AIPAC lui-même, Josh Block. Pour éclairer un peu les Français qui ont des difficultés à comprendre comment fonctionne effectivement un lobby, on va revenir, si vous voulez bien, à la façon dont vous fonctionnez ici. En matière de loi, on nous dit que l'AIPAC rédige des lois que le Congrès adopte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le Congrès adopte des lois qu'un lobby prépare ?
First of all, AIPAC's members are people who live in communities around the United States.
Les membres de l'AIPAC sont des gens qui vivent dans des communautés autour des États-Unis.
Like politics and they care about politics because they're engaged in ideas that matter to them.
Parce qu'ils sont engagés dans des idées qui leur importent.
And they work to develop relationships with their local elected officials. They volunteer on their campaign, they knock on doors,
they lick on doors. Et donc ils s'engagent dans les campagnes politiques, de pouvoir aller faire du porte-à-porte pour les élections, pour les candidats locaux.
They invite friends to have coffee with them at their home.
Ils les invitent par exemple les amis à venir discuter de politique chez eux.
And they build a relationship.
Et comme ça, ils construisent une relation.
These are not paid lobbyists, some corporate fat cats wearing Gucci shoes and suits.
Et ça, c'est pas du lobby de business. C'est pas des lobbies payés avec des gros gars qui sont bien payés rubis sur l'ongle pour pouvoir s'acheter des Gucci et des costards chers.
It's mothers and sisters and brothers and fathers and grandparents.
C'est des mères de famille, des parents, des grands-parents.
And the strength of AIPAC is in the relationship of its members. with members of Congress.
Et la force de l'EPAC repose dans les relations qu'ont ses membres avec les membres du Congrès, avec les élus.
To the contrary of the conspiracy theory.
À l'inverse justement de tout ce que disent les théories du complot.
It's not based in campaign contributions.
C'est pas payer les campagnes des politiciens.
The kind of lobbying that one envisions sometimes in this kind of fantasy land.
Et c'est pas c'est le lobbying comme ça peut être
nefarious work.
Quelque chose de calculé et de caché.
It's about real people.
C'est des vrais gens
who care about an issue,
qui se soucient d'une question,
and volunteering and developing a relationship with some
with
an elected official,
qui s'engage volontairement
like
pour
us American politics is,
comme le veut la politique américaine.
And when something comes up on Capitol Hill,
avec les élus. Et quand il se passe quelque chose à Capitol Hill qu'on voit de l'autre côté, c'est-à-dire au Congrès,
say, would you please take a look at this?
Ils appellent et disent s'il vous plaît, regardez ce dossier.
It's important to me.
Ça nous importe.
It's important.
Qui appelle? Les particuliers, les membres de l'EPAC, ces 100 000 membres appellent directement leurs représentants et leur disent faites attention à ce texte.
Yeah. And now look, millions of Americans call.
Et c'est des millions d'Américains qui téléphonent pour donner leur point de vue.
Something that is so overwhelmingly supported and is so centrist.
Mais quand on appelle pour soutenir une cause qui est partagée par tellement de monde qu'elle est presque centriste.
Think about America should use sanctions to stop Iran from getting a nuclear weapon.
Par exemple, les États-Unis devraient faire peser des sanctions sur l'Iran pour l'empêcher d'avoir l'arme atomique.
410 to 5.
410 voix pour, 5 contre au Congrès.
Israel has the right to defend herself against terrorism.
L'Israël a le droit de se défendre contre le terrorisme.
And we should support a peace process, a meaningful peace process between Israel and Palestine.
Et nous devrions soutenir un processus de paix entre Israël et la Palestine.
409 to 5. Or 390 to 5.
390 voix pour, 5 voix contre.
I mean, these are very basic ideas that are supported both on the Democratic side and the Republican side.
They're
universal
concepts
in America.
Des concepts universels dans la société américaine qui sont partagés aussi bien par les républicains que les démocrates.
L'accès à l'arme nucléaire par l'Iran a sans doute de quoi inquiéter et inquiète beaucoup. Mais écoutez un peu cette phrase. Nous devons combattre le Hamas comme les États-Unis ont combattu les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous devons combattre le Hamas comme les États-Unis ont combattu les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire en balançant des bombes atomiques sur la bande de Gaza ou sur la Cisjordanie. Qui a dit ça ? Qui a dit une chose aussi ? Eh bien, c'est un certain Avigdor Lieberman, qui aujourd'hui est le héros des élections en Israël. Ultranationaliste, extrême droite peut-être, mais en tout cas un pion capital en cette journée d'élection en Israël. Et quand est-ce qu'il a prononcé cette phrase-là ? Il y a très peu de temps, alors qu'il était ministre des Affaires stratégiques dans le gouvernement Ehud Olmert. On sait qu'Israël, évidemment, dispose de l'arme nucléaire, avec je ne sais combien d'ogives nucléaires et de missiles nucléaires, et voilà, un personnage qui peut avoir un rôle décisif. Donc on doit sans doute s'inquiéter de ce qui se prépare et de ce qui se passe en Iran, mais on peut peut-être un tout petit peu se poser des questions sur ce qui se passe et ce qui se prépare en Israël. Or, ça n'est pas du tout le cas. On s'inquiète, toute la planète s'inquiète à ce qui se passe en Iran et non pas en matière de défense et en matière nucléaire, à ce qui se passe en Israël. Eh bien, tout ça, c'est en partie le travail de l'EPAC sur les médias grâce aux think tanks. On n'a pas assez peut-être parlé des think tanks, de ces boîtes à idées nombreuses à Washington et pas seulement à Washington, qui sont là pour fabriquer des idées, des justifications et contribuer à, eh bien, cette fabrique du consentement et à cette manipulation des esprits. On retrouve l'un des auteurs. C'est quand même très fort. Il y a combien ? Il y a 535 congressistes, hein, entre le sénateur et les représentants. Vous dites que à 6 près, c'est une unanimité et les médias ont été quasiment unanimes à soutenir l'offensive. Comment ce groupe de pression peut-il faire ? Quelles sont ses techniques ? Parce qu'en termes de relations publiques, en termes de pression, etc., c'est très très fort dans un grand pays démocratique, libre, avec une opposition où tout le monde peut s'exprimer. Quelles sont leurs techniques ? Quelle est leur stratégie pour obtenir de tels résultats ?
very, very well organized, very efficient.
C'est très bien organisé et très efficace, oui.
Yeah. But this is how the American political system works.
Mais c'est comme ça que marche aussi le système politique américain.
A small group that's well organized can have enormous impact if it cares a lot about a particular issue.
Un petit groupe très bien organisé peut avoir un impact énorme s'il se concentre sur cette question précise.
They care a lot about this issue, and most other Americans, it's just not that important.
Parce que eux sont très très préoccupés par la question israélienne, alors que la majorité des Américains ne s'en soucient guère.
If you're a politician, you can get that group's support by doing what they want. And you don't lose anybody else's support.
Et si on est un politicien, on peut avoir le soutien de ce groupe très actif en acceptant leurs requêtes, sans perdre le soutien de la majorité qui est indifférente à cette question.
You know, in the United States and France, farmers are a very small percentage of the population.
Par exemple, aux États-Unis et en France, la population agricole est un très très petit pourcentage de la population.
But every year in the United States, we pass a farm bill that gives lots of money to this rather small number of farmers. Everybody knows it's a stupid policy, but by doing that, politicians win the support of farmers in several key states, and everybody else goes along with it.
Et donc, tous les ans, il y a des lois qui sont votées pour de l'aide financière aux fermiers et aux paysans américains, qui coûte une fortune, que tout le monde sait que c'est une politique sans queue ni tête, mais pourtant elle est votée, parce qu'avec ça, les politiciens peuvent, un, obtenir ses voix, et deux, gagner des états clés pour la politique, sans que le reste de l'opinion publique ne se sente particulièrement concerné.
And the Israel lobby is similar. Right? Politicians can get support from these groups by always declaring their support for Israel and not really lose support with any other groups.
Et c'est la même chose avec le lobby pro-israélien. Les politiciens peuvent avoir le soutien de ces groupes sans s'aliéner la majorité de l'opinion qui n'est pas très concernée par ces questions.
Yankel Kvitte Vessai Daisy, eh? Wenn Crosstown and join YMCA, soon Bacon and Porky began to enjoy. Took off his yarmulke, it was a guy. I said, hey, Yankel, take a walk on the kosher side. I said, hey, Nudnik, take a walk down Fairfax. And the members of Adasago.
Bye, 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 bye,
bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. He couldn't believe that he and Jesus were both Jews. He said, how can we be the same? Bendis long hair's got a Mexican name. I said, hey, Hirsch, take a walk on the kosher side. I said, hey, kid, take a walk down Fairfax. There, start there. Yeah, get me a forward there, will you? Go in the corner there. Get me a Danish here. I'm sick. I can't walk up there by myself. Give me a cup of coffee. Will Katz was taking his bar mitzvah lesson. Cross the street, a shiksa was undressing. And one day, to the rabbi's surprise, Katz was shown the way he was circumcised. I said, hey, Katzie, take a walk on the kosher side. I said, hey, Nudnik, take a walk down Fairfax. And the members of it have to go. Let me show that a girl a thing like that for. You know what's gonna happen? Your mother finds out about a thing like that. You'll make a hot let me out of here, Randy.
Il y a deux thèses, il faut bien le dire, au sujet du lobby pro-israélien et notamment de l'EPAC. Il y a ceux comme Walt et Mersheimer qui a pour lesquels le lobby pro-israélien est tout puissant et très puissant et manipule aussi bien la politique étrangère des États-Unis et la politique d'Israël. Et d'autres qui minimisent complètement ce rôle en disant oui, c'est un lobby parmi d'autres, mais c'est pas l'essentiel dans cette affaire et dans ce lien entre ce lien si privilégié, si direct entre les États-Unis et Israël. Ces deux thèses qui qui s'opposent. Alors, voilà comment, en tout cas, Walter Mearsheimer explique sur un événement tout récent et qui a des prolongations, c'est-à-dire l'offensive sur Gaza. Comment, en quoi est-ce que le lobby pro-israélien a pu avoir sur cette tragédie une influence quelconque?
Prenons l'exemple tout récent de Gaza, cette offensive sur Gaza. Quel a été, dans cet épisode, le rôle du lobby? Est-ce que vous pouvez analyser ça pour nous?
As soon as the Gaza war broke out,
dès que l'offensive sur Gaza a commencé,
there were representatives from organizations like AIPAC or groups like the Washington Institute for Near East Policy, which is another sort of research organization that's very pro-Israel, were issuing statements, writing articles, going on the radio, going on television, defending what Israel was doing and explaining.
Dès que les opérations ont commencé, il y a les représentants de l'AIPAC et aussi d'autres think tanks pro-israéliens qui ont écrit des articles, qui ont fait des éditoriaux, qui ont parlé à la radio, parlé à la télévision pour défendre les opérations en cours.
Second, if you look at public opinion in the United States, public opinion was very divided. Right. There were some people who obviously thought what Israel was doing was right, and other people who thought what Israel was doing was very wrong, but it was sort of evenly split here.
Et quand on voit aussi l'opinion publique, les sondages qui montrent que l'opinion publique était très divisée sur ces questions. Il y a ceux qui étaient pour Israël, d'autres ceux qui ne savaient pas comment trop se passer. Enfin, il n'y avait pas un camp.
But then Congress, both the House and the Senate in Congress, passed resolutions declaring overwhelming support for Israel by enormous margins, essentially unanimously in the Senate and by an overwhelming vote, 400 to maybe 8 or so in the House.
Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des résolutions qui ont été votées au sein du Congrès. Le Congrès, c'est-à-dire l'alliance du Sénat et de la Chambre des députés, l'équivalent, qui, eux, n'étaient pas du tout représentatifs de l'opinion publique américaine, c'est-à-dire que c'était une majorité écrasante de l'ordre de 400 pour et 8 contre pour un soutien inconditionnel d'Israël dans la guerre.
And of course, the Bush administration put all the blame on Hamas and didn't say anything remotely critical of Israel, despite what was happening there.
Et le gouvernement de Bush a mis toute la faute, toute la responsabilité de cette guerre sur le Hamas, sans ne critiquant jamais l'action d'Israël.
Even though what Israel was doing was, like Lebanon in 2006, foolish.
Et même si ce que faisait Israël était, comme les précédentes opérations sur le Liban en 2006, une erreur erronée.
And I might add inhumane.
Il faut même que j'ajoute que c'était inhumain.
Because they were killing, over 1,000 people in Gaza and wounding many more, but not changing the strategic relationship with Hamas. They were not going to solve the problem.
Parce que non seulement ils ont tué plus de 1,000 personnes, non seulement ils ont blessé encore davantage de personnes, mais ça n'a rien changé à la donne stratégique dans la région et ça n'a rien changé avec les rapports et le rôle du Hamas.
And if you now read the Israeli press, you'll find that people on the right are criticizing them for failing to solve the problem.
Si on voit la presse aujourd'hui en Israël, on voit que les journaux de droite critiquent le gouvernement pour ne pas avoir résolu le problème.
And people on the left are criticizing them for, committing war crimes and failing to solve the problem.
Et les gens de gauche, eux, critiquent le même gouvernement pour avoir commis des crimes de guerre et n'avoir pas résolu toujours le problème. And
this is just another example where the United States backs Israel even when Israel is doing something that is foolish and not in its own best interest.
Et c'est, voilà un exemple clair et précis de le soutien inconditionnel de la politique américaine à Israël, même quand cette politique est non seulement erronée, mais en plus nuit aux intérêts d'Israël.
Ouais, Stephen, c'est ce que vous dites tout au long de votre livre, hein, c'est que le lobby pro-israélien aux États-Unis mène une influence des politiques qui sont à la fois néfaste aux États-Unis et à Israël. Il y a un vieux principe qui dit les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Là, c'est différent. Les politiques menées ou les soutiens que les États-Unis peuvent apporter à Israël, parfois, sont néfastes aux intérêts américains.
That's correct. These groups are not actually friends of Israel.
Ce que je dois dire, c'est que ces groupes-ci ne sont pas des vrais amis d'Israël.
By preventing any criticism of Israel by making it very difficult to have an open discussion of these issues. They make it very difficult for governments and for other people to change Israel's behavior, even when Israel's doing something foolish or stupid.
En voulant empêcher tout débat, en voulant empêcher toute discussion saine, ils font en sorte que ça rend de plus en plus difficile pour les gouvernements et pour les politiciens de changer le comportement politique d'Israël dans la région, même quand ils font des bêtises, même quand ils commettent des erreurs.
Unconditional support for Israel has made the United States very unpopular.
Oui, parce que ce soutien inconditionnel à Israël a rendu les États-Unis très impopulaires.
In the Arab and Islamic world,
dans tout le monde arabe et islamique,
it has also made a number of other U.S. allies, including allies in Europe, question our judgment.
Et ça a aussi amené beaucoup d'alliés des États-Unis, y compris dans les pays européens, remettre en question la politique des États-Unis.
And it is one of the things, not the only thing, but one of the things that fuels the terrorism problem that we are all facing now.
Et c'est un des éléments, je dis pas que c'est le seul, mais c'est un des éléments qui encourage et qui suscite le terrorisme auquel on est confronté partout.
C'est ça. C'est-à-dire que ces amis d'Israël ne sont pas les meilleurs amis d'Israël.
Right. They are false friends.
Oui, c'est des faux amis.
On dit avec des amis pareils, on n'a pas besoin d'ennemis.
Yes. Certainement.
Merci à tous. Il est 16h20 sur Inter. On se retrouve demain à 15h là-bas si j'y suis, la suite de ces reportages. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Bouin. Salut.